C'est oui ou bien c'est non, c'est la question du jour, vous le savez, la question que nous vous posions hier était simple finalement et en même temps très complexe. Israël devra-t-il rester à Gaza une fois le Hamas éradiqué? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs de cette question? Qu'ont-ils répondu?
Alors, oui, on a donc une majorité qui semble se dessiner, une majorité de oui. On est à 57% de oui pour 43% de non sur Facebook et 60% de oui contre 40% de non sur Twitter. Il y a quand même donc une différence avec Insta et une majorité à 63% et 37% de oui seulement. Donc justement, on va demander son avis à notre invité. On est en ligne avec Stéphane Amar, journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, quel est votre avis, Stéphane? Est-ce qu'Israël va devoir rester à Gaza une fois que le Hamas sera éradiqué?
Alors, Israël va rester à Gaza certainement pour assurer la sécurité de la bande de Gaza. Il faut quand même dire que cette question est un petit peu prématurée parce que pour l'instant, les opérations sont en cours. On ne sait pas jusqu'où elles iront, dans quelle mesure le Hamas sera démantelé. Est-ce que ce sera juste la branche armée? Est-ce que ce sera également la branche politique, quelle attitude vont avoir les dirigeants, quelle attitude va avoir le Qatar, l'Iran. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus évidemment. Ce qui est certain, c'est qu'on ne reviendra pas au statu quo ante, on ne reviendra pas à une bande de Gaza aux mains d'un groupe terroriste avec une capacité à menacer directement, on l'a vu, des milliers de civils israéliens.
Alors, c'est vrai qu'elle peut paraître prématurée, Stéphane, mais si on s'est permis de la poser, c'est parce que c'est les Américains qui en parlent beaucoup, à vrai dire, et notamment les officiels américains qui, pas plus tard qu'hier soir, ont fait plusieurs discours, notamment John Kirby, pour dire qu'il semblait obligatoire que d'une manière ou d'une autre, Israël reste dans un système qui pourrait être comme celui de la Judée-Samarie aujourd'hui, c'est-à-dire dirigé par l'autorité palestinienne, avec des soldats israéliens qui peuvent rentrer dans la région quand il y a besoin.
Oui, c'est évidemment quelque chose comme ça qui se dessine, mais on voit bien qu'on est à l'aube d'un changement de paradigme, parce que les Israéliens et la communauté internationale a cru qu'on pouvait s'accommoder finalement du statu quo qui en vérité dure depuis 1967. C'est-à-dire depuis 56 ans. Et on a bien vu qu'on ne pouvait pas, puisque il y a eu bien sûr cette explosion de violence de la part du Hamas, mais également, depuis de longs mois maintenant, la situation en Cisjordanie, en Judée-Samarie, est extrêmement instable. Il y a des attentats quasiment tous les jours. Les populations juives qui vivent sur ce territoire sont menacées sur les routes, sont menacées parfois dans leurs implantations même. Et donc, il va falloir trouver une solution, je dirais, plus pérenne, une solution de long terme. C'est-à-dire qu'Israël va devoir décider, une fois pour toutes, qu'est-ce qu'il veut faire de ces territoires. Est-ce qu'Israël veut aller vers une annexion de la Cisjordanie, ou en tout cas installer sur le long terme son pouvoir, sa souveraineté sur ce territoire, ou est-ce qu'il envisage, comme le veulent les Américains, la création d'un État palestinien, ce qui paraît évidemment, alors je vous le parle, complètement ubuesque, parce qu'on sait bien que dès lors que les Palestiniens auront sanctuarisé un territoire, comme ça s'est passé à Gaza, eh bien ils recommenceront à s'armer et à attaquer Israël, à moins évidemment d'un changement complet dans la culture palestinienne, dans l'approche palestinienne de ce conflit. C'est toutes ces questions qui vont se poser après la guerre à Gaza.
Alors, pour continuer sur cette, on va dire, hypothèse, est-ce que l'autorité palestinienne, qui est déjà en perte de vitesse assez énorme en Judée-Samarie, pourrait justement retrouver de la popularité à Gaza?
Non, c'est extrêmement compliqué. Une de nos équipes s'est rendue hier à Ramallah. Elle a pu constater d'abord que la popularité du Hamas était à son zénith. Les gens qui là-bas ne sont pas sous les bombes israéliennes admirent énormément le Hamas. Ils sont soit dans le déni des massacres du 7 octobre, soit carrément dans l'assentiment, c'est-à-dire qu'ils trouvent que le Hamas a très bien fait de massacrer des civils. Et l'autorité palestinienne et palestinien, il est complètement discrédité. Un des interlocuteurs nous disait il est évident que Abbas n'arrivera pas sur un char israélien à Gaza. Il n'aurait aucune légitimité à diriger la bande de Gaza. Certains parlent d'organiser de nouvelles élections. On sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une consultation démocratique, que ce soit chez les Palestiniens, mais dans l'ensemble du monde arabe, ce sont les islamistes qui l'emportent. Donc il est évident que s'il y avait des élections demain, le Hamas l'emporterait. Et enfin, je dirais que c'est peut-être sans doute l'aspect le plus important, il faut bien comprendre que l'autorité palestinienne, tout comme le Hamas, incite sa population depuis son plus jeune âge à la haine contre Israël, au refus de l'existence d'Israël. Elle éduque sa jeunesse à reconquérir toute la Palestine. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qui doit changer dans l'hypothèse où il y a une restauration sous une forme ou une autre de l'autorité palestinienne.
Alors, l'autre possibilité, Stéphane Amar, ce serait quoi? Ce serait une gestion internationale de ce territoire de Gaza?
Non, Israël, depuis très longtemps, n'accepte pas de gestion internationale. On se souvient très bien ce qui s'est passé à la veille de la guerre des Six Jours. Il y a eu entre la guerre de Suez, donc de 1956, et la guerre des Six Jours en 1967, une force d'interposition de l'ONU dans la bande de Gaza. Or, quand Nasser a exigé que cette force se retire parce qu'elle préparait l'invasion du territoire israélien, eh bien, l'ONU a immédiatement plié bagage et cette présence n'a servi strictement à rien. Israël a tout de même dû affronter la guerre et faire la guerre à l'Égypte. Et on voit mal, évidemment, des soldats de l'ONU s'installer ici, aux portes de Jérusalem ou dans les territoires palestiniens. À Gaza, c'est autre chose. On peut peut-être éventuellement envisager une force, en tout cas d'interposition, une fois que la situation sera stabilisée militairement à Gaza.
Alors, sans leur faire offense, la force d'interposition, elle existe déjà à la frontière entre Israël et le Liban, et c'est tout de même le Hezbollah qui fait la loi là-bas, Stéphane.
Oui, absolument, ça, c'est un excellent exemple, effectivement. On sait très bien que la FINUL, il y a eu des reportages absolument éloquents qui ont été réalisés là-dessus, est complètement terrorisé par le Hezbollah, se contente de faire des rapports écrits qui ne servent évidemment à rien. Et bien sûr, le Hezbollah s'est imposé comme une véritable armée au sud-Liban. Donc c'est pour ça aussi que les Israéliens sont très réticents à jouer cette carte de l'ONU. Si solution internationale il y a, ce sera évidemment avec les États-Unis.
Alors, est-ce que peut-être l'Égypte pourrait jouer un rôle pour calmer le jeu dans la région?
Alors, l'Égypte est un partenaire loyal d'Israël et a besoin aussi d'Israël pour lutter contre le terrorisme dans le Sinaï, dans la péninsule du Sinaï. La coopération sécuritaire est très poussée entre les deux pays. Donc, certainement, oui, l'Égypte va jouer un rôle, je dirais, militaire, opérationnel dans l'après-Gaza. Mais je pense que le principal acteur qui, en tout cas, est en train d'émerger, se dessine, c'est l'Arabie Saoudite. Il faut rappeler que l'Arabie Saoudite était sur le point de normaliser ses relations avec Israël à la veille du conflit. C'est d'ailleurs pour ça que le Hamas a déclenché ce conflit précisément à ce moment-là, pour éviter ça. Or, l'Arabie Saoudite a une attitude très claire à la fois sur sur la légitimité d'Israël, puisqu'elle envisage une normalisation, mais également sur le fond, puisque dès le début du processus de normalisation, s'il y a maintenant plusieurs années, l'Arabie Saoudite a commencé par changer ses programmes scolaires et expurger l'antisémitisme de ses programmes scolaires. Et ça, encore une fois, je crois que c'est fondamental.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en tout cas envisager comme suite de cette guerre dans le court terme, on va dire, Stéphane Amar?
Bon, ce qui semble maintenant un petit peu évident, c'est qu'Israël a le dessus. Ça n'a pas été le bain de sang annoncé, cette invasion terrestre. Il y a eu des pertes, évidemment, mais qui restent à l'échelle d'un tel conflit relativement limité pour Israël. Israël commence à faire rentrer des reporters étrangers et israéliens pour témoigner des assauts, des commandos contre les miliciens du Hamas, pour témoigner de la destruction des tunnels, pour aussi montrer que le Hamas est complètement abrité derrière la population civile pour les tirs de roquettes, pour abriter ses quartiers généraux. Donc cela voudrait dire qu'Israël a le dessus militairement. Sinon, ce serait toujours évidemment le blackout. On ne sait pas exactement quel est l'état des forces du Hamas. Ce qui paraît maintenant évident, c'est que les stocks de roquettes sont quasiment épuisés, puisque les tirs deviennent de plus en plus rares vers le territoire israélien. Et évidemment, beaucoup de remplacements aussi ont été détruits. Maintenant, il y aura sans doute cette guerre des tunnels dont on parle depuis longtemps, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer.
Guerre des tunnels, c'est vraiment la chose dont on avait le plus peur, hein, Stéphane Amar, parce qu'on sait que 500 kilomètres de tunnels est à chaque fois l'avantage du terrain pour les terroristes du Hamas.
Oui, mais ça montre aussi, si vous voulez, que le Hamas a été largement surestimé et surtout que le gouvernement israélien a commis une erreur majeure en 2014, même en 2012 ou en 2008, alors qu'il se trouvait dans Gaza, de ne pas pousser son avantage, alors que le Hamas était beaucoup plus faible et était réellement à sa portée. Et à ce moment-là, si vous voulez, d'éradiquer la branche armée, la carte qu'a jouée Israël, il y avait des raisons. Pour le faire, c'était de dire que le Hamas c'était un gardien finalement de la bande de Gaza, qu'il valait mieux traiter avec lui parce qu'on savait avec qui on avait affaire, et aboutir à une espèce de paix armée. Mais ce pari, on l'a vu, a été complètement manqué. Maintenant que je veux dire que les militaires s'affrontent, on voit évidemment que les miliciens du Hamas et cette milice du Hamas, pas du tout évidemment à la hauteur militaire de l'armée israélienne.
Et ma dernière question, elle aura entre guillemets pas rien à voir, mais c'est juste votre opinion sur un rapport qui est sorti cette nuit de l'organisation Honest Reporting, qui montre qu'il y a un certain nombre de photographes indépendants qui étaient là le 7 octobre et qui visiblement auraient été prévenus par les gens du Hamas. C'est tout de même la ligne rouge quand on est journaliste, Stéphane.
Alors, le statut, si vous voulez, des journalistes dont vous parlez, hein, ces journalistes, en fait, qui sont correspondants pour des grandes agences ou des grands médias étrangers, mais qui sont des Palestiniens, puisqu'il y a très peu d'étrangers dans la bande de Gaza, et encore moins d'étrangers autorisés à travailler dans la bande de Gaza. Parce que le Hamas contrôle très très les journalistes étrangers qui rentrent dans la bande de Gaza avec un système de visa, un système de surveillance de ce qu'ils produisent, etc. Donc, effectivement, ce sont des Palestiniens qui sont complètement acquis à la cause palestinienne, sinon il ne pourrait pas d'ailleurs prendre ce type de photo, c'est-à-dire être admis parmi les combattants du Hamas. Ça pose bien sûr le problème d'indépendance de ces journalistes et le problème de la fiabilité de ces agences qui les utilisent. Et ça, j'imagine que le rapport dont vous parlez va faire pas mal de bruit. Maintenant, effectivement, comment dirais-je, la situation globale de la bande de Gaza, il faut pas l'oublier, c'est fondamental pour comprendre ce conflit, est une situation de dictature. Donc, comme dans toute dictature, les journalistes sont aux ordres du pouvoir.
Oui, en effet. Merci beaucoup à Stéphane Amar, journaliste spécialiste
Merci,
du
Lise.
Moyen-Orient, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.